Daesh, malgré les apparences d'un groupe sanguinaire et déchaîné, c'est aussi un projet idéologique et une représentation géopolitique rigoureuse et cohérente. Daesh se réclame de la tradition et du culte de l'authenticité, celles qui lui viennent tout droit du prophète Mahomet et de la parole du Coran. Il apporte donc autant une légitimation religieuse qu'un véritable programme d'action politique, une forte charge idéologique, n'est-ce pas Thomas ?
Oui, c'est ce qu'on, évidemment, c'est ce qu'il faut conclure Céline, parce qu'avec ce retour du califat, Daesh fait référence au premier temps de l'islam, hein, en 632, quand meurt le prophète Mohammed. Pour le remplacer, c'est son ami et parent Abou Bakr qui est choisi comme successeur, c'est-à-dire comme calife.
Ah, donc c'est de là que ça vient, un calife, c'est un successeur du prophète.
Voilà, c'est ça, et Daesh se place dans la filiation directe hein, du prophète et de ses premiers successeurs. Parce que quand Abou Bakr devint calife en 632, il eut ces mots « Je suis devenu votre souverain, mais je ne suis pas le meilleur d'entre vous. Si je me conduis bien, aidez-moi. Si je me conduis mal, rectifiez-moi. » Et ce sont exactement ces mots qu'a prononcé al-Baghdadi le 4 juillet 2014 dans la mosquée de Mossoul. Il était d'ailleurs apparu vêtu de la moussafia et de la bourda, c'est-à-dire du turban noir et du manteau noir, qui sont les attributs de Muhammad.
Mais pourquoi donc cette référence directe au premier temps de l'islam ?
Parce que les premiers temps de l'islam, ce sont aussi les temps d'avant la fitna.
La fitna.
Alors, fitna, petit point vocabulaire, ça veut dire sédition en arabe, et c'est une référence historique précise à la division entre chiites et sunnites, arrivée au milieu du 7e siècle. Donc, avec le terme de califat, c'est bien la volonté de dominer tous les musulmans, quelle que soit leur confession, hein, que semble affirmer Daesh. Surtout hein, que la théorie politique, l'idéologie du califat, elle s'est mise en place entre le 9e et le 12e siècle, c'est-à-dire sous les Abbassides, puis sous les Seljoukides. Elle fut définie contre la Jahiliya, c'est-à-dire la barbarie anté-islamique, qui perdurait chez les non-musulmans, mais surtout chez les syndics, les hérétiques chiites. Plus précisément, hein, ce qui concerne Daesh, cette théorie du califat elle repose directement sur les Ahkam al-Sultaniya, ou les statuts gouvernementaux, hein, écrits par Abu al-Hassan al-Mawardi au XIe siècle, puisque ce document il constitue rien moins que la charte de gouvernement de l'État islamique en Irak et au Levant. Or, comme l'avait montré Hamilton Gibb, ces Ahkam sont des textes de circonstance visant à défendre la position des Abbassides sunnites contre les dynasties chiites concurrentes, que ce soit les seigneurs de guerre bouillides à Bagdad ou les Fatimides du Caire.
Donc le califat, c'est moins une menace pour l'Occident qu'une attaque directe contre le chiisme et le kharijisme, c'est ça Thomas ?
Oui. Et non, Céline, c'est-à-dire que pour reconstituer l'Oumma, c'est-à-dire la communauté des croyants, hein, autour du sunnisme, Daesh se sert du rejet de l'Occident. C'est ce que l'on comprend bien avec les propos d'Al-Anani, hein, le porte-parole de Daesh, lors de son annonce de la proclamation du califat. Vous n'avez aucune excuse pour ne pas soutenir ou vous rallier à ce calife, car le calife Ibrahim, que Dieu le garde, a parfaitement réuni toutes les conditions exigées par les maîtres pour le califat. Rejeter la démocratie, la laïcité, le nationalisme et autres ordures de l'Occident.
Donc, le rejet de l'Occident comme étendard pour rassembler l'Oumma. Mais pourquoi un croyant doit obéir à son calife, Toba ?
Déjà, il faut rappeler que selon la formule, le pouvoir et la religion sont deux frères et aucun ne peut se passer de l'autre. Le calife, donc, en tant que vicaire du prophète, il a une autorité à la fois religieuse et politique. Or, selon la tradition, une allégeance inconditionnelle lui est due par tous les musulmans et elle se manifeste notamment lors d'une prestation collective de serment baya.
D'accord, donc dans un des textes sacrés de l'islam, on trouve l'injonction d'une allégeance inconditionnelle au calife pour tous les membres de l'Oumma.
C'est encore plus compliqué que ça, Céline. Et c'est là toute la manipulation des textes sacrés qu'opère l'islam radical. Cette prétention à une allégeance inconditionnelle reposerait sur la sourate 4, verset 59. Je la lis. « Obéissez à ceux qui parmi vous détiennent le commandement ».
Ah oui, non, mais c'est quand même très vague tout ça, on est très loin d'une allégeance inconditionnelle.
Oui voilà, c'est très vague. Le problème, c'est que nombre de musulmans, notamment ceux qui se radicalisent, eh bien, ne lisent plus le Coran. Ils en lisent des digests, des interprétations, comme par exemple le best-seller « La voix du musulman » paru en 86 et écrit par Abou Bakr Jaber El-Jazari, dans lequel on lit à la page 88, je cite « Il est formellement interdit aux musulmans de s'insurger contre les autorités ». Et un peu plus loin, le musulman est tenu de participer à la guerre sainte à leur côté. Donc Céline, non seulement l'auteur déforme la sourate, ce qui en soi est déjà un péché, hein, puisque le Coran divisé en sourates regroupe les paroles d'Allah, les révélations faites aux prophètes hein, par l'archange Gabriel. Donc déformer une sourate, c'est déformer la parole de Dieu. Mais surtout, l'auteur lit ce texte de la soumission musulmane à celui du djihad, et là, on retrouve l'idée d'une menace pour l'Occident, surtout que ce livre, hein, La Voix du musulman, qui professe un islam rigoriste et qui fait donc la promotion de la guerre sainte, il était en vente libre dans toute l'Europe et il a bénéficié de plusieurs rééditions jusqu'en 2011. Et la polémique soulevée par Le Figaro sur les passages pro-djihad, il était même disponible en France, à la Fnac et à Carrefour.
Bon, ce que vous avez sur le califat, effectivement, avec la disparition du califat en Turquie en 1924, lorsque la Turquie est devenue une république laïque avec Atatürk, le califat a disparu. On a eu, à un moment donné, le shérif de la Mecque, Hachemite, qui a voulu se proclamer calife. Ça a duré 2 ans, mais il n'a pas été suivi parce qu'il n'avait pas demandé l'autorisation en britannique à l'époque, sinon ça aurait peut-être marché. Et à partir de là, il y a une vacance du califat, comme c'est l'équivalent d'une vacance de la papauté, quoi. Et Ayman al-Zawahiri, Ben Laden n'ont jamais osé franchir le pas se proclamer calife. Ce qu'a fait al-Baghdadi, et il revient effectivement à l'idéologie du califat des premiers siècles, des premières années de l'islam, pour étendre son influence à l'ensemble du monde musulman.